Accent d'Europe, Frédéric Lebel.
Bonjour, alors que la conférence internationale sur le climat boucle ses travaux à Sharm el-Cheikh en Égypte, on n'a pas fini de documenter l'ampleur du désastre écologique. Au sud de la planète, beaucoup, mais aussi en Europe. En Italie, après une année marquée par des événements climatiques extrêmes, l'impact sur l'économie s'annonce lourd. La Banque d'Italie a voulu mesurer précisément les conséquences d'un réchauffement à 1,5 degré. Et autant dire, Blandine Hugonnet, que les retombées s'annoncent terribles.
Dans le nord de l'Italie, dans le bassin du Pô, le fleuve nourricier n'a pas retrouvé ses niveaux de saison. Cet automne, absence de pluie et chaleur anormale prolongent la sécheresse des derniers mois. Sécheresse historique dans tout le pays qui s'est accompagnée d'incendies, de tempêtes et inondations et de la chute meurtrière d'un glacier des Alpes pendant l'été. Les épisodes climatiques violents ont augmenté de plus de 40% en Italie en 2022, année la plus chaude jamais enregistrée depuis 200 ans. Et ce n'est que le début des complications, signale l'inquiétante étude commandée par la Banque d'Italie. D'ici la fin du siècle, le PIB italien s'écroulera de plus de 9% si les températures augmentent de 1,5 degré. Et les secteurs stratégiques sont les plus à risque, à commencer par l'agriculture, en particulier le maïs et le blé dur. Rien que cette année, les producteurs accusent 6 milliards d'euros de pertes. Autre secteur clé touché, le tourisme hivernal notamment, alors que les prévisions à long terme annoncent jusqu'à 45% de neige en moins dans le nord. Des bouleversements climatiques qui font aussi des dégâts sociaux. L'étude signale que pollution de l'air et forte chaleur qui font baisser la concentration et l'efficacité affecteront à l'avenir les résultats des écoliers italiens et les performances et la sécurité des travailleurs. Face à une perspective si désastreuse, les chercheurs appellent l'Italie, largement dépendante des énergies fossiles, à miser sur le renouvelable et à mettre en place une taxe carbone pour diminuer les émissions de CO2. Mais pas question pour Giorgia Meloni qui préfère se concentrer sur les nouveaux forages de gaz en mer. Désormais, le gouvernement dominé par l'extrême droite ne parle que crise énergétique au lieu de parler transition écologique, dénonce Legambiente pour l'Association de défense de l'environnement. Avec une telle politique, l'Italie n'est pas prête de voir de changement autre que climatique.
Et désordre climatique veut dire aussi perte de biodiversité. Malgré des paysages à couper le souffle, l'Albanie est un des pays les plus touchés du continent. Et la faune marine n'est pas épargnée. La surpêche, la pollution et l'absence de données fiables fragilisent encore plus les différentes espèces menacées. À Vlora, dans le sud du pays, Louis Seyé a suivi un spécialiste des requins qui tente de sensibiliser les pêcheurs locaux.
Le soleil décline dans la baie de Vlora et quelques chalutiers s'amarrent dans le petit port de cette ville du sud de l'Albanie. C'est le moment pour le scientifique bosnien André Gajic et ses collègues albanais de sauter dans les bateaux pour inspecter la pêche du jour.
On effectue une observation quasi quotidienne des chaluts et de leurs prises accessoires, surtout pour évaluer les populations des espèces en danger et en danger critique qui se trouvent réellement dans ces prises accessoires, ce qui arrive malheureusement très souvent. Ce sont des espèces intéressantes et les pêcheurs collaborent très facilement avec nous. On noue des liens d'amitié, ce qui est aussi important que le travail des forces de l'ordre.
Au milieu des cagettes de sardines et de merlans, André Gajic cherche surtout des requins ou des raies. Des poissons impressionnants et de plus en plus rares en Méditerranée, mais que les pêcheurs albanais, comme l'Avdoche, ramènent souvent dans leurs filets.
Là, c'est une émissole. Ici, on l'appelle peloumbe. C'est mangeable, on en pêche assez souvent, mais ils ne sont pas gros, 5, 6 kilos. Ce sont des petits requins, pas des grands.
Si les pêcheurs de Vlora ne s'étonnent pas de la richesse de leurs prises, les fonds marins albanais restent entourés de mystères. Chez les scientifiques, le pays est souvent présenté comme un trou noir de la biodiversité européenne. Depuis un an, André Gajic tente de remédier à cette absence de données en sondant les eaux des mers adriatiques et ioniennes qui se rencontrent au large de Vlora.
Certaines espèces de requins ou de raies sont assez communes ici, alors qu'elles sont extrêmement rares dans le nord de la mer Adriatique. La surpêche et la perte d'habitat sont les principaux facteurs. Certains habitats de la côte albanaise devraient être strictement protégés et les pêcheurs devraient être impliqués dans tout le processus de prise de décision parce que ces mesures contribueront à la conservation des espèces, mais ils en profiteront aussi.
Tortues kawanes, phoques moines, mais aussi requins blancs ou raies torpilles, Pour les chercheurs, la survie de ces espèces passera notamment par la prise de conscience des pêcheurs locaux, mais aussi par leur aide pour récolter des données. André Gaïc.
On essaye de sensibiliser les pêcheurs en organisant beaucoup d'ateliers interactifs où on leur apprend à identifier certaines espèces et à les relâcher de la meilleure des manières possibles pour augmenter les chances de survie. En fait, je pense que cette collaboration avec les pêcheurs sera encore meilleure dans les années à venir, car sans leur soutien, nos efforts de conservation ne serviront à rien.
Selon le rapport Méditerranée vivante publié l'an dernier, les écosystèmes marins ont vu leur population de vertébrés s'effondrer de moitié en 30 ans. En cause, le dérèglement climatique, mais aussi la surpêche. En Albanie, beaucoup de pêcheurs reconnaissent n'avoir jamais vu leur prise inspectée. Capitaine de son bateau, Peloum, 30 ans, vient tout juste de relâcher un petit requin.
Aujourd'hui, on n'a plus le droit de pêcher au chalut à moins de 3000. On est surveillé par GPS. Et c'est vrai que ça a permis aux poissons de grandir et au stock d'augmenter un peu. Il faut dire qu'il n'y a pas longtemps, il n'y avait aucun critère. On amenait même les chaluts à 5 mètres de fond. C'était terrible, parce que quand on pêche à 5 mètres de fond, là où les poissons pondent, c'est normal qu'au bout d'un moment, il n'y ait plus rien.
En Albanie, il n'est pas difficile de manger du thon rouge dans les restaurants des grandes villes. En danger d'extinction, la population de cette espèce a baissé de 90% depuis 1993. Fils de pêcheur, Costa a travaillé pour les zones protégées de la région de Vlora. Il aide aujourd'hui Andrei à étudier les espèces en danger.
En fait, la plupart des espèces, on ne savait pas qu'elles étaient menacées de disparition. Parce que nous, on les voit tous les jours ici. Par exemple, pour les torpilles, Andrei m'a montré une photo d'une espèce qui est officiellement en voie d'extinction. Et moi, je lui ai dit, on en a plein ici, viens, on va les observer maintenant. En une nuit, on a trouvé 5 individus.
Isolée du reste du monde il y a tout juste 30 ans, l'Albanie suit le même modèle de développement que ses voisins européens. Dans un pays où la corruption atteint des sommets, cette transformation économique se fait au détriment des écosystèmes et d'une biodiversité encore riche. Endora Chelohojai travaille pour l'ONG PPNEA.
Les autorités comprennent qu'il y a un manque de données, mais elles ne comprennent pas encore l'importance de protéger des espèces en voie de disparition dont elles ne connaissent pas l'existence. Pour être vraiment efficace, il faut que les autorités disposent d'une technologie et d'un protocole plus adaptés. Elles ont besoin d'aide et de fonds d'autres pays pour pouvoir préserver cette biodiversité que l'on voit aujourd'hui en Albanie. Si on ne la protège pas, c'est sûr qu'elle s'effondrera.
Une biodiversité qui est aussi menacée par l'urbanisation rapide du littoral. Face à l'explosion de la fréquentation touristique dans la région de Vlora, le gouvernement albanais envisage de construire un aéroport dans le delta protégé de la Vjosa, considéré comme le dernier fleuve sauvage d'Europe.
Voilà une modification du droit pénal belge qui ne passera pas inaperçue suite au meurtre d'une jeune Espagnole par son ex-compagnon à Bruxelles fin octobre. Le gouvernement belge a décidé de reconnaître le féminicide comme un crime spécifique. Il faut dire, Clémence Pénard, que les statistiques plaident en ce sens.
Il n'existe pas en Europe de chiffres globaux comptabilisant le nombre de féminicides sur le continent. Souvent, c'est la société civile dans chaque État membre qui se charge de les recenser. En France, on dit qu'une femme meurt sous les coups de son compagnon ou de son ex tous les 3 jours. Depuis le début de l'année, le collectif Nous Toutes a décompté 118 féminicides. Et en Belgique, selon le site internet Stop Féminicide, il y en a eu au moins 20 jusqu'à présent. Une loi portée par la secrétaire d'État à l'égalité des genres, Sarah Schlitz, va tenter de remédier à ce problème puisque l'un de ses objectifs est justement la collecte de données statistiques dans le pays. Celles-ci pourront permettre de mieux évaluer l'ampleur du problème et ses caractéristiques. La loi va notamment définir officiellement ce qu'est un féminicide. Déjà, ça veut dire des femmes tuées parce qu'elles sont femmes. Plusieurs formes de féminicide vont être distinguées, intimes ou non intimes par exemple, ainsi que les formes de violence qui peuvent précéder ce crime, comme les violences sexuelles ou psychologiques. Tout ça, ça permet de qualifier juridiquement des faits. Et à telle qualification correspond un régime juridique et, in fine, une peine précise. C'est donc très important. Le texte prévoit également de nouveaux droits pour les survivantes, comme celui d'être interrogée par un membre des forces de police nourrissent, du genre de leur choix. La Belgique devient ainsi le premier pays européen à proposer une telle loi, même si le mot féminicide est déjà inscrit dans les codes pénaux de l'Espagne depuis 2004 et de l'Italie depuis 2013. En revanche, en France, on a du retard, le terme n'existe même pas juridiquement.
Merci Clémence Pénard. Chaque semaine, vous nous parlez d'une initiative vertueuse en Europe. C'est une des bonnes nouvelles qui sont aussi à retrouver sur les réseaux sociaux en vidéo avec Hunter.
Oh, Britannia, Britannia rules the waves. Britons never, never, never shall be slaves.
Le Royaume-Uni en récession avec un produit intérieur brut qui devrait chuter de 1,4% en 2023. La conjoncture mondiale, l'instabilité politique, mais aussi le Brexit ne sont pas étrangers à l'affaire. La sortie de l'Union européenne, sujet inépuisable d'études. Une jeune historienne a voulu comprendre pourquoi les Britanniques s'étaient engouffrés dans cette porte de sortie. Bonjour Marie Billon.
Bonjour Frédéric.
Vous êtes notre correspondante à Londres. Ce livre a pour titre « Rule Nostalgia » et il explique comment cette nostalgie pour un passé qu'on imagine plus radieux a conduit au Brexit.
Et oui, ce serait selon l'auteur l'une des expressions les plus récentes de la nostalgie et une des plus explicites. Le député conservateur Jacob Rees-Mogg avait dit à la conférence de son parti en 2017 que la victoire du Brexit au référendum de l'année précédente, c'était Magna Carta. C'est la bataille de Waterloo, d'Agincourt, de Crécy. Nous avons remporté tout ça, s'enorgueillait-il. Sauf que même à l'époque de la guerre de Cent Ans, à laquelle appartiennent les deux dernières victoires citées, les Anglais étaient déjà nostalgiques. Nostalgiques de l'Empire Plantagenet, quand le roi d'Angleterre possédait plus de territoire dans ce qui deviendra l'Hexagone que le roi de France lui-même. C'était au XIIe siècle. Pour l'ex-premier ministre Boris Johnson, le Brexit, c'était par contre redécouvrir le dynamisme des victoriens barbus. Sauf qu'à l'époque victorienne, on était nostalgique du Moyen-Âge, d'un Moyen-Âge fantastique. L'architecture néo-gothique s'est développée à ce moment-là, on lui doit notamment le Parlement de Westminster. Le fils de Victoria, Édouard VII, lui rejettera les valeurs trop rigides des victoriens pour embrasser un libertinage plus affirmé. Et retour de bâton dans les années 80, quand Margaret Thatcher prenait un retour aux valeurs de résilience et de sobriété des victoriens, oubliant le falbala du faux Moyen-Âge.
Et toute l'idée qui sous-tend le livre, c'est de dire le fameux « c'était mieux avant », finalement n'a rien de nouveau.
Oui, mais ça va beaucoup plus loin que ça. Déjà, le livre est écrit à l'envers. Il commence aujourd'hui pour se conclure au XVIe siècle, une manière de montrer qu'on forme et déforme l'histoire à sa guise depuis longtemps. Par exemple, avec les débats sur le wokisme, le terme anglo-saxon à la mode sur la conscience des inégalités sociales et raciales. Anna Rosewood rappelle que même au XVIIe et au XVIIIe siècle, beaucoup trouvaient l'esclavage et le commerce des esclaves détestables. Nous ne sommes pas les premiers à critiquer des figures historiques anglaises parce qu'elles possédaient des plantations en Jamaïque avec des esclaves déjà à l'époque. Ces personnages étaient critiqués. De la même manière, le débat d'aujourd'hui sur les statues, faut-il déboulonner les statues des personnages historiques controversés ou bien au contraire les garder en place en recontextualisant, ça n'est pas nouveau. Au XVIe siècle, lors de la réforme anglicane, quand le catholicisme a été remplacé par une version anglaise du protestantisme, la question se posait que faire des monastères. Certains de ces monuments ont été réduits en miettes et ont donc disparu. D'autres, il reste des ruines imposantes, voire majestueuses pour les amateurs. Le débat était donc déjà comment arrêter de célébrer quelque chose qu'on ne veut plus célébrer ? Faut-il oublier ou bien dénoncer ?
Et peut-on aller jusqu'à dire que la nostalgie fait partie de l'identité britannique, Marie ?
C'est ce que dit l'auteur, oui, c'est au moment de grands changements et donc de grands débats que la nation se serait formée. Pendant que certains, par exemple, dénonçaient la recherche de l'opulence quand le commerce s'est plus largement développé, surtout au XVIe et XVIIe siècle, d'autres y ont vu un moyen d'améliorer le quotidien des paysans, par exemple, qui n'étaient plus obligés d'être soumis aux aléas de la météo pour se nourrir. Certaines victuailles pouvaient être achetés, certains enfants pouvaient aller trouver un emploi dans les villes grandissantes. C'est ce qui a donné naissance à la nostalgie des verts pâturages. Avant, on se contentait de peu, de son lopin de terre, on était heureux, on a cette image aujourd'hui, et on l'avait déjà pendant la révolution industrielle. Sauf qu'on n'était pas forcément heureux, faim et maladie coûtaient la vie à beaucoup d'enfants, surtout dans les campagnes. Le passé bucolique est un passé inventée et certains en étaient conscients déjà et se moquaient de leurs contemporains nostalgiques. Même les belles images de la campagne anglaise verdoyante avec ses champs séparés par de charmants murs de pierre, eh bien, quand ils ont été construits, ces charmants murs de pierre, c'était une vraie révolution parce qu'avant 1450, les pâturages étaient ouverts à tous. Il n'y avait pas de délimitation des terres. Avec ce qu'on a appelé l'enclosure, littéralement la pose de clôture, on a créé des petits propriétaires terriens. Alors ça fait joli, mais à l'époque, ça a mis de nombreux paysans sur la paille.
Et ce sont ces moments clés qui ont permis de forger l'esprit britannique.
À chaque fois, de ces révolutions critiquées, certains ont fait un atout. Toute crise, qu'elle soit réelle ou inventée par des peurs injustifiées, peut être productive, dit l'auteur. La Seconde Guerre mondiale, par exemple, qui était une tragédie planétaire, objectivement, eh bien les Britanniques en ont fait un badge d'honneur. La petite île a vaincu les nazis. Et on oublie facilement que les troupes de l'Empire ont très largement contribué. En tout cas, la conclusion de l'auteur est très parlante. D'ailleurs, pour résumer l'attrait de la nostalgie, dans le passé, même le futur était mieux.
Merci Marie Billon. À Londres, à très bientôt.
Musique.
Et pour notre chronique musique, on reçoit Vincent Théval. Bonjour Vincent.
Bonjour Frédéric, bonjour à tous.
Et vous nous emmenez cette semaine en Espagne.
Au courrier aujourd'hui, une carte postale d'Espagne, envoyée par le groupe français La Femme, avec un nouvel album étonnant puisqu'il est entièrement chanté en espagnol et qu'il est inspiré par les périples du groupe en terre hispanophone, notamment Séville, Madrid, Grenade ou encore le Mexique. Teatro Lucido prend donc la forme d'un carnet de voyage où affleure l'influence des musiques locales, des guitares classiques au rythme andalou, en passant par la movida des années 80. On frôle parfois le pastiche, mais l'ensemble est guidé par une belle sincérité, à l'image de cette Tren de la Vida, balade musicalement inspirée par les chansons de la révolution anarchiste espagnole et interprétée par la chanteuse Luna Cedrón.
C'est sur un air espagnol du groupe français La Femme que se termine Accent d'Europe, réalisé aujourd'hui par Françoise Grelot. Retrouvez-nous en podcast sur notre site rfi.fr et sur les réseaux sociaux. À bientôt.